André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité.
Le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur.
Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie du roman de Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, La lampe juive, nouvelle publiée dans Je sais tout du 15 juillet au 15 août 1907, qui arrive après La Dame Londe, que nous vous avons présenté lors de notre précédente émission. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour à tous, bonjour André, bonjour Philippe.
Bonjour Philippe Merlan.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour nous faire partager les lectures d'extraits du roman La lampe juive, dans lequel le baron d'Imbleval, à qui on a volé une lampe contenant un bijou précieux, fait appel à Herlock Sholmes pour la retrouver. Lupin envoie une lettre au détective le priant de ne pas intervenir. Sholmes n'en tient aucun compte et se rend à Paris avec Wilson. Il réussit finalement à retrouver la lampe juive, mais découvre que son enquête a eu le résultat inverse de celui escompté. Elle a en effet perturbé les plans de Lupin, qui voulait en réalité aider la famille du baron. Dans la lampe juive, voici le pitch. À Londres, les affaires manquent pour Herlock Sholmes et Wilson. Mais un jour, une lettre provenant de Paris, écrite par un certain baron d'Imbleval, les tire de leur ennui. « Je viens vous demander le secours de votre expérience. J'ai été victime d'un vol important et les recherches effectuées jusqu'ici ne semblent pas devoir aboutir. » Une seconde enveloppe sous la première fait froncer les sourcils de Herlock Sholmes. Votre intervention causerait beaucoup de mal. Profondément désireux de vous épargner une telle humiliation, je vous conjure, au nom de l'amitié qui nous unit, de rester bien tranquillement au coin de votre feu. Arsène Lupin. Herlock Sholmes tape du poing sur la table, le visage rouge. Nous allons montrer à ce monsieur qu'il a peut-être tort de nous jeter le gant avec tant d'effronterie. Vite, Wilson, rendez-vous au premier train pour Paris. Dans la lampe juive, le deuxième round de l'incroyable combat entre deux titans, Herlock Sholmes et Arsène Lupin, est lancé. Qui en ressortira le grand vainqueur? Voici un premier extrait de la lampe juive. Holmes et son ami Wilson sont à Paris pour enquêter sur le vol de la lampe. Par Françoise.
Beau temps, Wilson, du soleil. Paris est en fête pour nous recevoir. Quelle foule! Tant mieux, Wilson. Nous ne risquons pas d'être remarqués. Personne ne nous reconnaîtra au milieu d'une telle multitude. Monsieur Sholmes, n'est-ce pas? Il s'arrêta, quelque peu interloqué, qui, diable, pouvait ainsi le désigner par son nom. Une femme se tenait à ses côtés, une jeune fille, dont la mise très simple soulignait la silhouette distinguée et dont la jolie figure avait une expression inquiète et douloureuse. Elle répéta. « Vous êtes bien, monsieur Sholmes ?» Comme il se taisait, autant par désarroi que par habitude de prudence, elle redit une troisième fois. « C'est bien à monsieur Sholmes que j'ai l'honneur de parler. »« Que me voulez-vous » dit-il assez bourru, croyant à une rencontre douteuse. Elle se planta devant lui. « Écoutez-moi, monsieur, c'est très grave. Je sais que vous allez rue Murillo. »« Que dites-vous ? » ?»« Je sais, rue Murillo, au numéro 18. » Eh bien, il ne faut pas. Non, il ne faut pas y aller. Je vous assure que vous le regretteriez. Si je vous dis ça, ne pensez pas que j'y ai quelque intérêt. C'est pas raison, c'est en toute conscience. Il essaya de l'écarter et elle insista. « Oh, je vous en prie, ne vous obstinez pas. Ah, si je savais comment vous convaincre. Regardez tout au fond de moi, tout au fond de mes yeux. Ils sont sincères. Ils disent la vérité. » Elle offrait ses yeux éperdument d'eux, ses beaux yeux graves et limpides où semble se réfléchir l'âme d'elle-même. Wilson hocha la tête. « Mademoiselle a l'air bien sincère. »«
Mais oui, implora-t-elle, il faut avoir confiance. »«
J'ai confiance, mademoiselle, répliqua Wilson. »
« Oh, comme je suis heureuse. Et votre ami aussi, n'est-ce pas? Je le sens, j'en suis sûre. Quel bonheur! Tout va s'arranger. Ah, la bonne idée que j'ai eue. Tenez, monsieur, il y a un train pour Calais dans 20 minutes. Eh bien, vous le prendrez. Vite, suivez-moi. Le chemin est de ce côté et vous n'avez que le temps. »
Elle cherchait à l'entraîner. Sholmes lui saisit le bras et d'une voix qu'il cherchait à rendre aussi douce que possible. « Excusez-moi, mademoiselle, de ne pouvoir accéder à votre désir, mais je n'abandonne jamais une tâche que j'ai entreprise.
Je vous en supplie, je vous en supplie, si vous pouviez comprendre. »
Il passa outre et s'éloigna rapidement. Wilson dit à la jeune fille, « Ayez bon espoir, il ira jusqu'au bout de l'affaire. Il n'y a pas d'exemple qu'il ait encore échoué. » Et il rattrapa Sholmes en courant. Herlock Sholmes, Arsène Lupin. Ces mots qui se détachaient en grosses lettres noires les heurtèrent au premier pas. Ils s'approchèrent, une série d'hommes sandwich déambulaient les uns derrière les autres, portant à la main de lourdes cannes ferrées dont ils frappaient le trottoir en cadence et, sur le dos, d'énormes affiches où l'on pouvait lire « Le match, Herlock Sholmes, Arsène Lupin ». Arrivée du champion anglais, le grand détective s'attaque au mystère de la rue Murillo. Lire les détails dans l'Écho de France. Wilson hocha la tête. Dis donc, Herlock, nous qui nous flattions de travailler incognito, je ne serais pas étonné que la garde républicaine nous attendît Murillo et qu'il y eût réception officielle avec toast et champagne.
Quand vous mettez à avoir de l'esprit, Wilson, vous en valez deux, grinça Sholmes.
Il s'avança vers l'un de ces hommes avec l'intention très nette de le prendre entre ses mains puissantes et de le réduire en miettes, lui et son placard. La foule, cependant, s'attroupait autour des affiches. On plaisantait et on riait. Réprimant un furieux accès de rage, il dit à l'homme « Quand vous a-t-on embauché ?»«
Ce matin. »
« Vous avez commencé votre promenade ?»«
Il y a une heure. »
« Mais les affiches étaient prêtes. »
« Madame, oui. Lorsque nous sommes venus ce matin à l'agence, elles étaient là. »
Ainsi donc, Arsène Lupin avait prévu que lui, Sholmes, accepterait la bataille. Bien plus, la lettre écrite par Lupin prouvait qu'il désirait cette bataille et qu'il entrait dans ses plans de se mesurer une fois de plus avec son rival. Pourquoi ? Quel motif le poussait à recommencer la lutte ? Herlock eut une seconde hésitation. Il fallait vraiment que ce Lupin fût bien sûr de la victoire pour montrer tant d'insolence et n'était-ce pas tomber dans le piège que d'accourir ainsi au premier appel. « Allons-y, Wilson. Cochez. 18 rue Murillo !» s'écria-t-il en réveil d'énergie. Et les veines gonflées, les poings serrés comme s'il allait se livrer à un assaut de boxe, il sauta dans une voiture.
Herlock Sholmes s'active, mais en parallèle, Lupin va user de tous les stratagèmes pour tenir Sholmes à distance de l'enquête. Les deux cerveaux vont ainsi s'affronter dans cette affaire de la lampe juive. Voici un deuxième extrait, le vol de la lampe, toujours avec Françoise.
Sholmes garda le silence quelques minutes encore, puis prononça ces paroles. Dès le début de votre récit, monsieur le baron, j'ai été frappé par le côté vraiment trop simple de l'agression. Appliquer une échelle, couper un carreau, choisir un objet et s'en aller, non. Les choses ne se passent pas aussi facilement. Tout ça est trop clair, trop net.
De sorte que
le vol de la lampe juive a été commis sous la direction d'Arsène Lupin.
Arsène Lupin, s'exclama le baron.
Mais il a été commis en dehors de lui, sans que personne entrât dans cet hôtel. Un domestique, peut-être, qui sera descendu de sa mansarde sur la terrasse, le long d'une gouttière que j'ai aperçue ce matin.
Mais quelle preuve ?
Arsène Lupin ne serait pas sorti du boudoir les mains vides.
Les mains vides ? Et la lampe ? Prendre la lampe ne l'eût pas empêché de prendre cette tabatière enrichie de diamants ou ce collier-là de vieilles opales. Il lui suffisait de deux gestes en plus. S'il ne les avait pas accomplis, c'est qu'il ne les a pas vus. Cependant, les traces relevées, comédie, mise en scène pour détourner les soupçons, les éraflures de la balustrade, mensonges, elles ont été produites avec du papier de verre. Tenez, voici quelques brins de papier que j'ai recueillis. Les marques laissées par les montants de l'échelle, de la blague. Examinez les deux trous rectangulaires du bas de la terrasse et les deux trous situés près de la grille. Leur forme est semblable, mais parallèle ici, et ne le sont plus là-bas. Mesurez la distance qui sépare chaque trou de son voisin. L'écart change selon l'endroit. Au pied de la terrasse, il est de 23 cm et le long de la grille, il est de 28 cm. Et vous en concluez ? J'en conclus, puisque leur forme est identique, que les quatre trous ont été faits à l'aide d'un seul et unique bout de bois convenablement taillé. Le meilleur argument serait ce bout de bois lui-même. « Le voici, » dit Sholmes. « Je l'ai ramassé dans le jardin sous la caisse d'un laurier. » Le baron s'inclina. Il y avait 40 minutes que l'Anglais avait franchi le seuil de cette porte et il ne restait plus rien de tout ce que l'on avait cru jusqu'ici sur le témoignage même des faits apparents. La réalité, une autre réalité se dégageait, fondée sur quelque chose de beaucoup plus solide, le raisonnement d'un Sherlock Holmes. L'accusation que vous lancez contre notre personnel est bien grave, monsieur, dit la baronne. Nos domestiques sont d'anciens serviteurs de la famille et aucun d'eux n'est capable de nous trahir. Si l'un d'eux ne vous trahissait pas, comment expliquer que cette lettre ait pu me parvenir le jour même et par le même courrier que celle que vous m'avez écrite ? Il tendit à la baronne la lettre que lui avait adressée Arsène Lupin. Madame d'Imbleval fut stupéfaite. Arsène Lupin ? Comment a-t-il su ? Vous n'avez mis personne au courant de votre lettre ? Personne, dit le baron. C'est une idée que nous avons eue l'autre soir à table. Devant les domestiques ? Il n'y avait que nos deux enfants. Et encore non, Sophie et Henriette n'étaient plus à table. N'est-ce pas, Suzanne ? Madame d'Imbleval réfléchit et affirma. En effet, elles avaient rejoint Noiselle. Mademoiselle, interrogea Sholmes. La gouvernante, Mademoiselle Alice Dumain. Cette personne ne prend donc pas ses repas avec vous ? Non, on la sert à part, dans sa chambre. Wilson eut une idée. La lettre écrite à mon ami Sherlock Holmes a été mise à la poste. Naturellement. Qui donc la porta ? Dominique, mon valet de chambre, depuis 20 ans, répondit le baron. Toute recherche de ce côté serait du temps perdu. « On ne perd jamais son temps quand on cherche », dit Wilson sentencieusement.
Dans cet épisode du roman de la lampe juive, Sherlock Holmes triomphe en apparence puisqu'il retrouve, malgré l'opposition d'Arsène Lupin, la lampe volée et le précieux bijou qu'elle contient, mais en apparence seulement. Il valait mieux pour ses propriétaires qu'elle ne leur soit pas rapportée. Voici un troisième extrait, rencontre avec Mademoiselle Alice Demoum, la gouvernante, et Wilson, blessé par Philippe.
Voyez-vous, mon cher camarade, disait Sholmes à Wilson, en brandissant le pneumatique d'Arsène Lupin, ce qui m'exaspère dans cette aventure, c'est de sentir continuellement posé sur moi l'œil de ce satané gentleman. Aucune de mes pensées les plus secrètes ne lui échappe. J'agis comme un acteur dont tous les pas sont réglés par une mise en scène rigoureuse, qui va là et qui dit cela, parce que le voulu ainsi une volonté supérieure. Comprenez-vous, Wilson ? Wilson eût certainement compris, s'il n'avait dormi le profond sommeil d'un homme dont la température varie entre 40 et 41 degrés. Mais qu'il entendit ou non, cela n'avait aucune importance pour Sholmes, qui continuait. Il me faut faire appel à toute mon énergie et mettre en œuvre toutes mes ressources pour ne pas me décourager. Heureusement qu'avec moi, ces petites taquineries sont autant de coups d'épingle qui me stimulent. Le feu de la piqûre apaisé, la plaie d'amour propre fermée. J'en arrive toujours à dire « Amuse-toi bien, mon bonhomme. Un moment ou l'autre, c'est toi-même qui te trahiras. » Car enfin, Wilson, n'est-ce pas, Lupin, qui, par sa première dépêche et par la réflexion qu'elle a suggérée à la petite Henriette, n'est-ce pas lui qui m'a livré le secret de sa correspondance avec Alice Demum ? Vous oubliez ce détail, vieux camarade. Il déambulait dans la chambre, à pas sonore, au risque de réveiller le vieux camarade. Enfin, ça ne va pas trop mal, et si les chemins que je suis sont un peu obscurs, je commence à m'y retrouver. Tout d'abord, je vais être fixé sur le sieur Bresson. Ganimard et moi, nous avons rendez-vous au bord de la Seine, à l'endroit où Bresson a jeté son paquet, et le rôle du monsieur nous sera connu. Pour le reste, c'est une partie à jouer entre Alice Demum et moi. L'adversaire est de mince envergure, hein, Wilson. Et ne pensez-vous pas qu'avant peu, je saurai la phrase de l'album et ce que signifient ces deux lettres isolées, ce C et ce H ? Car tout est là, Wilson. Mademoiselle entra au même instant et, apercevant Sholmes qui gesticulait, elle lui dit gentiment « Monsieur Sholmes, je vais vous gronder si vous réveillez mon malade. Ce n'est pas bien à vous de le déranger. Le docteur exige une tranquillité absolue. » Il la contemplait sans un mot, étonné comme au premier jour de son calme inexplicable. « Qu'avez-vous à me regarder, monsieur Sholmes ?»« Rien. Mais si, bah, vous semblez toujours avoir une arrière-pensée. Laquelle ?» Répondez, je vous en prie. » Elle interrogeait de tout son clair visage, de ses yeux ingénus, de sa bouche qui souriait et de toute son attitude aussi, de ses mains jointes, de son buste légèrement penché en avant. Et il y avait tant de candeur en elle que l'anglais en éprouva de la colère. Il s'approcha et lui dit à voix basse « Bresson s'est tué hier soir. » Elle répéta, sans avoir l'air de comprendre « Bresson s'est tué hier ?» En vérité, aucune contradiction n'altéra son visage, rien qui révéla l'effort d'un mensonge. « Vous étiez prévenu, lui dit-il, avec irritation, sinon vous auriez au moins tressailli. Ah, vous êtes plus forte que je ne croyais. Mais pourquoi dissimuler ?» Il saisit l'album à images qu'il venait de déposer sur une table voisine et, l'ouvrant à la page découpée, « Pourriez-vous me dire dans quel ordre on doit disposer les lettres qui manquent ici ?» pour connaître la teneur exacte du billet que vous avez envoyé à Bresson 4 jours avant le vol de la lampe juive. Dans quel ordre ? Bresson ? Le vol de la lampe juive ? Elle redisait les mots lentement comme pour en dégager le sens. Mais il insista. Hein. Oui, voici les lettres employées sur ce bout de papier. Que disiez-vous à Bresson ? Les lettres employées, ce que je disais. Soudain, elle éclata de rire. Ça y est, tu comprends, je suis la complice du vol. Il y a un monsieur Bresson qui a pris la lampe juive et qui s'est tué, et moi je suis l'ami de ce monsieur. Oh, que c'est amusant! Mais qui donc avez-vous été voir hier, dans la soirée au second étage d'une maison de l'avenue Éterne? Qui? Mais ma modiste, madame Langer. Est-ce que ma modiste et mon ami monsieur Bresson ne feraient qu'une seule et même personne? Malgré tout, Sholmes douta. On peut feindre de manière à donner le change, la terreur, la joie, l'inquiétude, tous les sentiments, mais non point l'indifférence, non point le rire heureux et insouciant. Cependant, il lui dit encore un dernier mot. Pourquoi l'autre soir à la gare du Nord m'avez-vous abordé ? Et pourquoi m'avez-vous supplié de repartir immédiatement sans m'occuper de ce vol ? Ah, vous êtes trop curieux, monsieur Sholmes, répondit-elle. En riant toujours, hein, toujours de la façon la plus naturelle. Pour votre punition, vous ne saurez rien, et en outre, vous garderez le malade pendant que je vais chez le pharmacien. Une ordonnance pressée, je me sauve. Elle sortit. Je suis roulé, murmura Sholmes. Non seulement je n'ai rien tiré d'elle, mais c'est moi qui me suis découvert. Et il se rappelait l'affaire du diamant bleu et l'interrogatoire qu'il avait fait subir à Clotilde d'Estange. N'était-ce pas la même sérénité que la dame blonde lui avait opposée ? Et ne se trouvait-il pas de nouveau en face d'un de ces êtres qui, protégé par Arsène Lupin, sous l'action directe de son influence, gardait dans l'angoisse même du danger le calme le plus stupéfiant ? Sholmes ! Sholmes ! Il s'approcha de Wilson qui l'appelait et il s'inclina vers lui. « Qu'y a-t-il, vieux camarade ? On souffre ? » Wilson remua les lèvres sans pouvoir parler. Enfin, après de grands efforts, il bégaya. « Non, Sholmes, ce n'est pas elle. Il est impossible que ce soit elle. Qu'est-ce que vous me chantez là ? Je vous dis que c'est elle, moi. Il n'y a qu'en face d'une créature de Lupin dressée et remontée par lui que je perds la tête et que j'agis aussi sottement. La voilà, maintenant, qui connaît toute l'histoire de la bombe. Je vous parie qu'avant 1 heure, Lupin sera prévenu. » Avant une heure, que dis-je? Mais tout de suite, le pharmacien, l'ordonnance pressée, des blagues.
La sortie d'Arsène Lupin contre Herlock Sholmes a mécontenté Conan Doyle, furieux de voir son détective Sherlock Holmes appelé Herlock Sholmes et son faire-valoir Watson appelé Wilson, ridiculisé par les personnages parodiques créés par Maurice Leblanc. Mais le roman est plein d'énergie, c'est presque essoufflant à lire. Moult rebondissements en termes de déguisement, de passages secrets, d'escarmouches entre les deux grands hommes. On peut comprendre que Doyle n'ait pas trouvé très sympathique son Sholmes, surtout son attitude vis-à-vis de Wilson, mais il n'en est pas moins présenté comme un limier très subtil. Au centre de tout, c'est Lupin, attachant, malgré sa suffisance, son arrogance et ses pitreries, attachant comme un grand enfant brillant, plutôt macho, gentil macho. C'est son époque, mais si séduisant et gentleman. Un français comme on aime les imaginer. Bref, un roman qui se lit bien, léger et distrayant. Voici un dernier extrait, la rencontre entre Arsène Lupin et Herlock Sholmes sur le bateau, dit par Philippe.
Auriez-vous un peu de feu, s'il vous plaît? Le monsieur ouvrit une boîte de tison et frotta. Tout de suite, une flamme jaillit. À sa lueur, Sholmes aperçut Arsène Lupin. S'il n'y avait pas eu, c'est chez l'anglais, un tout petit geste, un imperceptible geste de recul, Lupin aurait pu supposer que sa présence à bord était comme connue de Sholmes, tellement celui-ci resta maître de lui et tellement fut naturelle l'aisance avec laquelle il tendit la main à son adversaire. « Toujours en bonne santé, monsieur Lupin ?»« Bravo !» s'exclama Lupin, à qui un tel empire sur soi-même arracha un cri d'admiration. « Bravo ! Et pourquoi ? Comment pourquoi ? Vous voyez réapparaître devant vous comme un fantôme après avoir assisté à mon plongeon dans la Seine, et par orgueil, par un miracle d'orgueil que je qualifierais de tout britannique, vous n'avez pas un mouvement de stupeur, pas un mot de surprise. Ma foi, je le répète, bravo, c'est admirable. » « Ce n'est pas admirable. À votre façon de tomber de la barque, j'ai fort bien vu que vous tombiez volontairement et que vous n'y étiez pas atteint par la balle du brigadier. Et vous êtes parti sans savoir ce que je devenais. »« Ce que vous deveniez, je le savais. 500 personnes commandaient les deux rives sur un espace d'un kilomètre. Du moment que vous échappiez à la mort, votre capture était certaine. Mais pourtant, me voici. Hein. Monsieur Lupin, il y a deux hommes au monde de qui rien ne peut m'étonner. Moi d'abord, et vous ensuite. » La paix était conclue. Si Sholmes n'avait point réussi dans ses entreprises contre Arsène Lupin, si Lupin demeurait l'ennemi exceptionnel qu'il fallait définitivement renoncer à saisir, si au cours des engagements il conservait toujours la supériorité, l'Anglais n'en avait pas moins, par sa ténacité formidable, retrouvé la lampe juive comme il avait retrouvé le diamant bleu. Peut-être, cette fois, le résultat était-il moins brillant, surtout au point de vue du public, puisque Sholmes était obligé de taire les circonstances dans lesquelles lampe juive avait été découverte, de plot et de proclamer qu'il ignorait le nom du coupable. Mais d'homme à homme, de Lupin à Sholmes, de policier à cambrioleur, il n'y avait en toute équité ni vainqueur ni vaincu. Chacun d'eux pouvait prétendre à d'égales victoires. Ils causèrent donc un adversaire courtois qui ont déposé leurs armes et qui s'estiment à leur juste valeur.
Maurice Leblanc, 1864-1941, auteur de nombreux romans policiers et surtout père du fameux Arsène Lupin, est né d'une famille de négociants, a fui en Écosse durant la guerre franco-allemande, puis est revenu étudier à Rouen. Il fréquente Gustave Flaubert et Guy de Maupassant. Il refuse de faire le travail imposé par son père dans une fabrique de cadres et s'oriente vers le métier d'écrivain. Avec ses romans feuilletons comme Une femme, en 1893, il attise la curiosité de quelques auteurs célèbres, dont Alphonse Daudet. Mais c'est lorsqu'il publie en 1905 l'arrestation d'Arsène Lupin sur le modèle de Sherlock Holmes qu'il connaît un succès retentissant. Il continue sur sa lancée avec Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, qui provoque la colère de Conan Doyle. Il renforce son personnage Arsène Lupin au fil de sa carrière et aujourd'hui encore, on ne cesse d'apprécier ce gentleman cambrioleur en livre, en film ou en série. Merci Françoise et merci Philippe et à très bientôt pour de nouvelles aventures d'Arsène Lupin. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Je trouve extrêmement drôle que, dans l'aventure qui nous occupe, je sois le bon génie qui secourt et qui sauve. Et vous, le mauvais génie qui apporte le désespoir et les larmes. Elle est de Maurice Leblanc dans La lampe juive. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radioaltitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.